Masha Kondakova, vous nous avez rejoint. Vous êtes réalisatrice ukrainienne du documentaire Inner Wars. Vous avez peut-être un commentaire à faire sur ce qui a été dit par ce combattant français.
Bah absolument. Et encore une fois, merci à Flash et d'autres combattants français et étrangers qui sont présents à la ligne de front de côté ukrainien pour défendre les valeurs qu'il a évoquées tout à l'heure. Et je parlais à quelqu'un parmi eux. Par rapport de la concession de territoriale, je voudrais vous rappeler un sujet dans l'histoire française qui parle de cette l'Alsace et la Lorraine. Vous vous souvenez, en 1870, quand ce territoire-là a été sous les menaces, sous la pression, a été occupé par les Allemands. Mais 44 ans après, quand elle a été libérée, tous les gens qu'on voit aujourd'hui ou quand on retrouve aujourd'hui se trouvent français. Donc, si on parle aujourd'hui de territoire qui subit de l'occupation russe, ça veut dire l'oblast de Zaporizhia, de Kharkiv, de Donetsk et Lugansk, Kherson, bien sûr. Si vous savez très bien que les Russes ont imposé les passeports russes là-bas parce que sinon vous pouvez pas envoyer vos enfants à l'école, vous pouvez pas avoir une aide médicale si vous n'avez pas accepté des passeports russes. Aujourd'hui, à Mariupol, vous savez ce qui fait la propagande russe, ils ont essayé de faire cette ville comme un étalon de leur paix, soi-disant, pour monter les salaires, les pensions, pour que même des gens de Donetsk soient jaloux en disant que vous avez subi de certains moments terribles, mais nous le faisons depuis 2014. Vous voyez ce que créait Poutine sur ce territoire occupé. Et je vous rappelle aussi que les enfants obligés de chanter l'hymne russe chaque matin. Et il y avait des Ukrainiens qui ont refusé et qui étaient sévèrement punis à cause de ça. Aujourd'hui, on a à mon avis, encore une fois, je reviens de Kiev, hier soir je suis rentrée, où j'ai passé le temps en faisant le montage de mon prochain film documentaire. Évidemment, pour les combattants, c'est un point de vue. Il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup des frères d'armes qui sont tombés. C'est hors de question de céder quoi
que ce soit.
Mais au niveau de politique, au niveau de cesser le feu, c'est pas cesser les territoires, c'est cesser le feu. C'est pas du tout.
C'est ce que l'on comprend dans ce que nous dit Flash, c'est qu'il y a ce besoin aussi d'une paix, d'une pause
temporaire.
D'une pause temporaire pour aussi remobiliser les troupes qui sont sur le front depuis 3 ans. Nous ont rejoint Stéphane Bureau. Bonsoir, consultant États-Unis pour BFM TV. Bonsoir Denis Strelkov. Vous êtes journaliste à la rédaction russe de RFI. Et bonsoir Stéphane Courtois.
Bonsoir.
Vous êtes historien, co-auteur du livre noir de Vladimir Poutine. Parce que ce soir, justement, pour comprendre où va Vladimir Poutine, on s'est dit, encore faut-il comprendre d'où il vient, comment il est, comment il réfléchit, sa vision du monde, son rapport aux autres. Et on va essayer avec vous, ce soir, je dis bien essayer, de se mettre dans la tête de Vladimir Poutine. Avant ça...
Redoutable.
Mais on a un expert redoutable en la matière avec vous ce soir. Avant ça, j'aimerais qu'on réécoute aujourd'hui la conférence de presse de Vladimir Poutine. Il donnait une conférence conjointe avec le président biélorusse Alexandre Loukachenko. Et il a répondu à cette proposition de trêve formulée par Donald Trump.
Nous sommes d'accord avec les propositions visant à mettre fin aux hostilités. Mais nous pensons que cet arrêt doit être un arrêt qui mène à une paix durable et qui s'attaque aux causes profondes de cette crise. Comment saurons-nous assurer que l'Ukraine ne procédera pas à un réarmement? Comment le cessez-le-feu sera-t-il organisé? J'espère que cela est clair pour tout le monde. Il s'agit de questions de bon sens. Ce sont toutes des questions sérieuses. L'idée d'une trêve est donc bonne et nous la soutenons. Mais il y a des questions dont nous devons discuter. Et je pense que nous devons en parler à nos partenaires américains. Peut-être même au président Trump, en l'appelant et en discutant avec lui.
Vous qui parlez le langage Poutine depuis des années, une paix durable, s'attaquer aux causes profondes, qu'est-ce que ça veut dire ?
Nous sommes pour cette proposition, mais... Alors, tout est dit, je crois que c'est pas la peine d'aller plus loin.
C'est un nom poli ?
C'est un nom poli, non, mais il n'a pas bougé. Il ne peut pas dire « je suis contre la paix », évidemment, sinon c'est lui qui sera le coupable. Il ne peut pas dire « je suis contre un cessez-le-feu » immédiatement, parce que, évidemment, tout le monde va lui tomber dessus, hein. Mais je vois pas du tout. En plus, il dit très, il va sur les questions concrètes, hein. Et comment on va faire? C'est vrai ça. Comment on va faire? Il y a 2000 kilomètres de frontières, il y a 2000 kilomètres de front, il y a des centaines de milliers d'hommes de chaque côté, armés jusqu'aux dents, qui s'affrontent. Qu'est-ce qu'on fait? Mm-hmm. On sonne le clairon, on dit c'est fini.
Et ça pose une vraie question pour la suite des choses, parce qu'on dit depuis quelques semaines, 20 ou 30 000 soldats européens pourront assurer les choses après. Ouais. Mais en fait, on découvre que ça risque d'être beaucoup plus compliqué.
Mais alors, effectivement, il n'en veut pas.
Il soulève de vraies questions, effectivement, sur le respect de cette trêve, des questions techniques qu'on abordera avec vous, Général, dans un instant. Mais quand même, juste avant, sur cette réponse de Vladimir Poutine, à la fois, c'est un oui mais ou un non peut-être, à moins que... Enfin, je ne sais pas comment on peut l'interpréter.
Pour la propagande russe, c'est quand même assez clair ce que ça veut dire. C'est une nette totale pour l'instant, parce que pour Vladimir Poutine, toute la guerre, c'est un peu la tentative de rebâtir l'ordre mondial. C'est ce qui était déclaré depuis le début. Le fait d'accepter le paix sur les conditions qui sont imposées par Donald Trump, ça veut dire de céder à ces conditions. Et en plus, je voulais vous rappeler qu'avant-hier, on a vu Vladimir Poutine qui a rendu visite dans un état, dans ce quartier de l'état majeur de la région de Koursk. Il était dans son tenue militaire.
Ça faisait 20 ans qu'il n'était plus à Paris en tenue militaire face caméra.
Oui, surtout, les images qui ont été transmises sur toutes les chaînes de télé, ils ont eu qu'un seul message, c'est que Vladimir Poutine et la Russie peuvent aller encore plus loin, peuvent ne pas tout simplement reconquérir les territoires qui sont russes, mais aussi les reconquérir des territoires qui sont russes par constitution. Je rappelle qu'il y a toujours des territoires qui sont officiellement pour la Russie russe, mais bien évidemment, ce sont des territoires occupés.
Mais je disais, c'est dans cette réponse de Vladimir Poutine, je disais non polie, parce qu'il y a une forme de politesse, tout est un petit peu enrobé en disant je ne refuse pas pleinement la proposition de Donald Trump, je vais y réfléchir. Je soulève un certain nombre de questions qu'on va aborder dans un instant, mais j'ai mes conditions. Mais il n'énumère pas précisément ces conditions, il ne dicte pas ces conditions à la lettre. Alors on les connaît, elles n'ont pas changé. Et non. D'ailleurs, l'ambassadeur de Russie en France, qui était notre invité, les a rappelées sur ce plateau. Mais néanmoins, il soulève seulement des interrogations à ce stade. Et il laisse la balle dans le camp de Donald Trump, d'une certaine façon.
En filigrane, il y a quand même deux choses qui semblent ressortir du discours. Sur la question de la poche de course qui est toujours actuellement l'objet de combats, ce que veut Poutine, c'est une reddition des soldats ukrainiens. Il veut leur reddition. Il ne veut pas qu'ils puissent s'échapper. Il veut les faire prisonniers et les juger comme des terroristes, pas comme des guerriers, des soldats qui sont protégés par la Convention de Genève. Donc, il veut leur reddition. C'est le premier point. Et deuxième point, il a parlé de la mobilisation en Ukraine. Mm-hmm. Il veut que Trump impose l'arrêt de la mobilisation. Alors, vous savez qu'en Ukraine, on a raccourci l'âge de conscription, à 25 ans pour être envoyé au front. Mm-hmm. Ouais. Et donc, c'était pour envoyer effectivement des soldats supplémentaires sur les lignes de front. Et Poutine veut que Trump demande à Zelensky de ne plus mobiliser pour qu'il y ait moins de soldats sur le front. Donc, il y a quand même des choses, vous voyez, il y a des lignes rouges sur l'essentiel. Hein. Il n'a pas bougé, c'est-à-dire que c'est toujours... je veux une Ukraine neutre et finalement soumise.
Une non-adhésion
à l'OTAN,
une démilitarisation de l'Ukraine.
Il ajoute des petites conditions comme ça qui n'ont l'air de rien, mais qui sont essentielles dans le climat de guerre actuel.
Général Gomard, juste sur les questions qu'il a soulevées, il dit voilà, une trêve, d'accord, mais déjà, un, pour faire quoi? Et puis deux, comment concrètement on met en pratique ce cessez-le-feu? Il soulève un certain nombre de questions qui sont réelles. Qui surveillera la ligne de contact entre les belligérants et qui va relever d'éventuelles violations? Qui sera le juge de paix? Et ça, c'est vrai que pour l'instant, ces questions-là, elles n'ont pas été réglées.
Ça, c'est vrai. Mais son souci premier, c'est que la poche de Koursk tombe. Alors, soldats prisonniers ou soldats qui sont partis. Mais derrière, vous avez raison, une ligne de cessez-le-feu, comment, qui va siffler la fin ou la fin de la partie ou la mi-temps? Exactement. Qui va siffler ça? Comment c'est surveillé sur 2000 km de front? Qui met-on? Comment ça s'organise? Et finalement, là, en fait, à travers ça, il gagne du temps. Il cherche à gagner du temps pour lui permettre, en effet, de finir, selon lui, de nettoyer la poche de Koursk. Parce que il a besoin de ça avant de rentrer en négociation réellement pour pas avoir de territoire russe tenu par les Ukrainiens. Parce que les Ukrainiens, évidemment, c'était l'objectif initial, peuvent s'en servir pour échanger ça contre du territoire ukrainien. Donc, de mon point de vue, c'est une phase d'attente. Là où il a raison, les questions pratiques, et tout le monde se les pose, je pense que ça déjà, c'est déjà dans les tuyaux. Comment ça va se passer concrètement? C'est pas nous qui le dirons ici sur ce plateau, mais c'est un dialogue. On est dans le dialogue, en fait, là. Alors, c'est pas un dialogue qui
nous va bien.
Mais
dans le dialogue ou dans le rapport de force?
Non, mais les deux. C'est un dialogue, c'est un peu un rapport de force, dans tout débat. Et bien sûr, malheureusement, il y a des morts d'hommes sur le terrain. Ce que dit Trump, il dit il y a trop de morts. D'où le fait qu'il veuille aller vite. Mais derrière ça, comment est-ce qu'il peut mettre la pression sur Poutine pour que Poutine arrête son cessez-le-feu? Je ne sais pas parce que
Il parle d'un levier. Donald Trump a dit aujourd'hui, j'ai un levier pour mettre la pression sur Vladimir Poutine. Il n'a pas précisé le levier en question, mais justement, Stéphane Bureau,
il en a créé un qui n'existait pas. C'est-à-dire qu'en retirant l'aide à l'Ukraine pendant une semaine, il a fait aussi la démonstration qu'il pouvait aider les Ukrainiens et les soutenir si les Russes ne voulaient pas jouer sa partie. Donc, en creux, couper l'aide, c'était aussi de se dégager un levier qui, je pense, est très concret pour les Russes.
Mais Ulysse, tout à l'heure, vous disiez qu'il y a potentiellement un autre levier qui serait celui d'armée, d'un point de vue nucléaire. La Pologne, ça pourrait être un levier ultime de pression.
Pas d'armée, mais de changer l'emplacement des armes nucléaires américaines qui sont actuellement, par exemple, en Allemagne ou en Italie. La Pologne, le président polonais a demandé à Trump de déplacer ses armes et de les mettre sur le sol polonais. Ça, c'est une demande concrète. Par contre, le premier ministre, qui est du camp politique opposé, c'est une cohabitation à la polonaise, lui a dit il faut qu'on puisse bénéficier des moyens de dissuasion français. C'est-à-dire qu'il voudrait que Macron, ou le président français quel qu'il soit, étende la garantie nucléaire jusqu'à la Pologne en cas d'agression russe. Et c'est une menace qui est potentiellement, d'abord l'histoire nous a démontré que c'était vraiment possible, mais aussi c'est quand même un pays qui est à la fois à la frontière de l'Ukraine et de la Russie. Donc ils sont en première ligne, si j'ose dire. Et ça, effectivement, ça pourrait être, je dirais, la botte ultime de Trump. Si Poutine vraiment continuait à verrouiller tout accord, à violer le cessez-le-feu, à ne pas jouer le jeu d'une certaine manière que lui imposerait Donald Trump, alors Trump pourrait dire, si c'est comme ça, le président Loukachenko à tes côtés et tu dis que tu vas mettre des missiles nucléaires en Biélorussie, eh bien moi, je suis capable de faire la même chose. Donc à toi de choisir, Vladimir, si tu veux jouer à ce jeu-là, je suis là.